Excellent réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Dérouter un avion pour arrêter l'opposant sans ses partisans. Les autorités russes ont fait diversion hier soir pour interpeller Alexei Navalny. Notre correspondant nous racontera la folle soirée à Moscou alors que la communauté internationale s'offusque de cette arrestation.
Place aux seniors, les plus de 75 ans sont invités à se faire vacciner à partir d'aujourd'hui en France, mais les doses pourraient manquer.
Le Covid-19, la crise sanitaire et les questions politiques encore. Dans son billet après ce journal, Frédéric Seyss s'intéressera aux frontières plus ou moins poreuses.
D'ici là, le mot-clé MeToo inceste lancé sur les réseaux sociaux, la parole se libère après les accusations qui visent le politologue Olivier Duhamel.
Et puis dans cette édition, nous reviendrons sur la carrière du producteur musical Phil Spector. Il est mort hier en prison après une condamnation pour meurtre. Alexei Navalny a donc passé la nuit en prison, incarcéré en Russie, où il venait tout juste de rentrer, près de 5 mois après un empoisonnement présumé attribué au service secret russe. L'opposant à Vladimir Poutine était depuis ces 5 derniers mois soigné en Allemagne. Il a donc décidé de rentrer à Moscou, ce qui n'est pas passé inaperçu. Sympathisant neutralisé, collaborateur arrêté, avion dérouté, les autorités russes n'ont pas lésiné sur les moyens hier soir. Vous étiez à l'aéroport, Claude Bruyot.
Les aboiements des chiens policiers, les avertissements dans les haut-parleurs des aumônes, les unités anti-émeutes n'étaient que des leurres, destinés à laisser croire aux quelques centaines de sympathisants d'Alexei Navalny qu'il leur serait difficile d'apercevoir leur leader. Et pour cause, dès le départ, il était prévu que son avion serait dérouté vers un autre aéroport moscovite et que l'intéressé serait arrêté à l'écart de ses soutiens. Faut-il que Vladimir Poutine ait peur à ce point de son principal opposant, s'interroge Sergueï Boïko, venu spécialement de Novosibirsk en Sibérie, où il dirige le collectif Navalny.
Nous comprenons que le système politique russe actuel fonctionne de telle façon qu'il ne respecte pas les gens. Le pouvoir peut faire ce qu'il veut. Ils peuvent par exemple lui présenter une convocation pour comparaître devant un tribunal fin janvier. C'est vraiment difficile de prédire maintenant quoi que ce soit. Le Kremlin est devenu hystérique.
S'il s'appuie sur l'interdiction de tout rassemblement pour gérer la pression intérieure qui va faire suite à l'arrestation d'Alexei Navalny, le Kremlin, en revanche, passé sa rudesse habituelle, aura des difficultés à ignorer très longtemps les injonctions occidentales qui demandent sa libération.
Effectivement, Paris l'exigeait hier soir. Le Conseil européen qualifiait d'inacceptable l'incarcération d'Alexei Navalny quand les États-Unis ont condamné fermement cette nuit cette arrestation. Alors, Claude Bruyot, encore, la libération rapide de l'opposant, malgré tous ces appels de la communauté internationale, cette libération rapide semble peu probable.
Mêlez-vous de vos affaires. La réaction dès hier soir de Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, en réponse aux demandes occidentales pour obtenir la libération rapide d'Alexei Navalny, ne laisse guère de doute quant à la durée de la détention de l'intéressé. Comme à chaque fois, plus la pression internationale est forte et plus le Kremlin commence par se braquer. Résultat, il est probable que l'opposant numéro 1, Vladimir Poutine, reste en détention jusqu'à l'audience qui abordera ce pseudo non-respect des règles du sursis, une démarche qui ressemble beaucoup à un prétexte pour écarter d'emblée Alexei Navalny et l'empêcher surtout de revenir haut et fort en Russie cette fois sur l'empoisonnement dont il estime avoir été victime avec l'assentiment du Kremlin. L'administration pénitentiaire russe lui reproche pendant la fin de sa convalescence en Allemagne de ne pas s'être signalé dans les règles le plus sérieusement du monde.
Merci Claude Bruyot depuis Moscou pour France Culture. Washington transformée en ce moment en forteresse à 2 jours de l'investiture de Joe Biden. C'est une semaine de tension qui s'ouvre aux États-Unis car les autorités redoutent la menace d'extrémistes armés pro-Trump. Les militaires sont eux-mêmes contrôlés par le FBI, preuve du climat de méfiance qui règne sur place. Les cérémonies vont débuter demain soir pour une investiture prévue mercredi sans la présence du président sortant Donald Trump. Joe Biden, démocrate, est donc aux portes de la Maison Blanche. Cela avait donné de l'espoir à des milliers de migrants d'Amérique centrale désireux de venir travailler aux États-Unis. Il s'agit principalement de familles qui fuient la violence chez elles. 9000 personnes au total ont fui le Honduras ces derniers jours et sont coincés ce matin au Guatemala, arrêtés avec violence par l'armée guatémaltèque. Emmanuel Stills nous raconte.
Loin, très loin de son objectif, les États-Unis, la nouvelle caravane de migrants est bloquée au Guatemala. Les autorités de ce pays, invoquant les restrictions sanitaires liées à la pandémie, ont violemment intercepté les Honduriens durant leur marche, lançant des gaz lacrymogènes sur leur groupe. Mais faire demi-tour n'est pas une option pour ces migrants. Alejandra Macias, directrice d'Asylum Access au Mexique, une organisation qui défend l'accès au droit d'asile des centra-américains, explique les raisons de cet exode massif.
Le gouvernement du Honduras a reconnu qu'il y avait des déplacements de personnes à cause de la violence généralisée. Et il y a une recrudescence de ces déplacements l'an dernier du fait de la pandémie de Covid et du passage de deux ouragans dans la région.
Au Mexique et en Amérique centrale, une centaine d'organisations civiles ont diffusé un appel adressé au gouvernement de la région à l'occasion de cette caravane. Elles déplorent que celle-ci soit refoulée en bloc sans écouter les demandes des Honduriens.
La majorité de ces personnes pourraient avoir besoin de protection internationale. Donc nous, les organisations, demandons que les pays garantissent l'accès de ces personnes à la procédure d'asile.
Cette nouvelle caravane était portée par l'espoir d'une brèche qui s'ouvrirait dans la frontière américaine avec l'arrivée de Joe Biden à la présidence des États-Unis. Et selon Alejandra Macias, les migrants ne font pas forcément fausse route.
Le président Biden s'est engagé à accueillir 125 000 réfugiés d'ici septembre prochain. Donc oui, il y aura un changement.
Pour l'instant, ni le Guatemala ni le Mexique ne s'aventurent à entériner ce changement. Le Mexique a d'ailleurs envoyé sa garde nationale en renfort à la frontière sud afin de faire barrage à la caravane, si tant est qu'elle parvient à ses portes.
Emmanuel Stiles en Amérique centrale pour France Culture, région qui est par ailleurs l'une des plus touchées au monde par le Covid-19, après les États-Unis et l'Inde. Plus au sud, le Brésil. Le pays vient de passer la barre des 210 000 morts avec un président, Jair Bolsonaro, critiqué pour sa gestion de la crise, et un variant au Covid-19 qui inquiète. Hier, les premiers vaccins ont été administrés dans le pays. Camille Magnard s'en faisait l'écho dans sa revue de presse internationale ce matin. Elle est à retrouver en podcast.
8h07 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. En France, la campagne de vaccination s'accélère.
Oui, à partir d'aujourd'hui, les personnes de 75 ans et plus peuvent se faire vacciner contre le Covid-19. Cela représente, selon le ministre de la Santé, 6 400 000 personnes. Mais Olivier Véran invite toutefois à la prudence et à la patience. Les doses de vaccins n'arrivent que progressivement. Le risque est donc in fine de provoquer un afflux de demandes, Antoine Maretz.
Selon un récent sondage, les Français sont désormais majoritaires à vouloir se faire vacciner. Ceux de plus de 75 ans, mais aussi ceux qui présentent des pathologies à haut risque, ont aujourd'hui la possibilité de le faire, en théorie, car la logistique a du mal à suivre. Depuis vendredi, le site santé.fr répertorie dans chaque département les lieux de vaccination, mais les délais pour prendre rendez-vous sont souvent très élevés, parfois plusieurs semaines, quand toutefois c'est possible. Pour le député LREM, Thomas Meynier, également médecin urgentiste, les Français doivent faire preuve de patience.
On avait anticipé le fait qu'il y aurait beaucoup de connexions à santé.fr et beaucoup d'appels. On est en train d'ouvrir beaucoup de centres de vaccination à travers le pays, ce qui va permettre un maillage du territoire efficace. On va vacciner au fur et à mesure qu'on a les livraisons de vaccins. Tout ça demande un peu de temps, mais est en train de se mettre en place.
Une question demeure, le gouvernement a-t-il perdu du temps et ses difficultés à prendre rendez-vous pour se faire vacciner en sont-elles l'une des conséquences? Sur ce point, le maire d'hiver droite de Poissy, Carl Olive, se veut plutôt compréhensif et il met en avant les initiatives locales.
Depuis 9 mois maintenant, avec le préfet des Yvelines et avec l'agence régionale de santé, on a toujours travaillé main dans la main depuis le moment où on a décidé de transformer notre salle des fêtes en un centre de consultation, puis en un centre de dépistage au mois de septembre-octobre, puis depuis 10 jours en un centre de vaccination qui fonctionne tous les jours de 14h à 17h. À partir d'aujourd'hui, ce sera toute la journée avec une trentaine de personnes présentes sur site.
Pour se faire vacciner à Poissy, il faut prendre rendez-vous. Mais ce week-end, c'était chose impossible sur le site Doctolib.
Une prise de rendez-vous interrompue aussi ce matin dans tout le département de la Seine-Saint-Denis, selon le président du département, faute de doses suffisantes. Alors Antoine Marette évoquait la volonté ou non de se faire vacciner, volonté des Français. Anne Fauquemberg a interrogé à ce propos le sociologue spécialiste du vieillissement Serge Guérin, professeur à l'INSEC. Il est important, dit-il, de faire évoluer l'imaginaire autour du vaccin.
Le gros quand même de nos modes de vie, c'est beaucoup, ça tourne beaucoup sur les représentations et sur l'imaginaire. C'est des faits sociaux. Mon imaginaire, il est plus fort que le réel. Mais pour amener de l'imaginaire vers ce réel du vaccin, c'est peut-être la profondeur historique. C'est quand même pas nouveau les vaccins. Et bah, faudrait qu'on, je ne sais pas combien, mais c'est en milliards qu'on compte le nombre de gens qui ont été sauvés par les vaccins. Il y a quand même des maladies qui ont disparu récemment, même en Afrique, dans tout le continent africain, il y a des maladies qui ont disparu grâce à la vaccination. Alors pas seulement, mais n'empêche que la vaccination a joué un rôle absolument majeur. Donc peut-être rappeler ça. Et puis c'est la question de la pédagogie. J'ai pas dit la communication, d'abord de la pédagogie. Comment on explique, en prenant les gens au sérieux, en les respectant, en les prenant comme des adultes, en ne les infantilisant pas, et de dire en même temps, il n'y a rien qui est sûr à 100%. Mais la vie, elle n'est pas sûre à 100%.
L'entretien complet avec Serge Guédrin est à retrouver sur notre site franceculture.fr ce matin. Le Conseil français du culte musulman valide la charte des principes de l'islam de France. Ce texte consacre l'égalité homme-femme, la compatibilité de l'islam avec la République et le rejet de l'islamisme. Les représentants du CFCM auront l'occasion d'en parler ce midi avec Emmanuel Macron à l'Élysée. Pendant ce temps à l'Assemblée nationale, aujourd'hui lundi, les députés vont examiner un projet de loi qui conforte les principes républicains. Anciennement projet de loi sur les séparatismes. Le débat devrait se cristalliser autour des questions du voile ou de l'enseignement à domicile. Un livre, La Familia Grande, paru le 7 janvier dernier, dans lequel Camille Kouchner accuse son beau-père Olivier Duhamel de viol sur son frère jumeau quand il était adolescent. Un livre donc, et un écho, plusieurs échos en tout cas depuis ce week-end, des centaines de récits d'inceste sont publiés sur Twitter sous le mot-clé MeToo Inceste. Ce mouvement a été lancé par le collectif Nous Toutes. L'une de ses militantes, Madeleine Da Silva, est aussi adjointe à l'éducation et à la culture en Seine-Saint-Denis au Lila. Elle demande à ce que l'on entende enfin la parole des enfants.
Les enfants, pour certains, posent des mots. Et pour ceux qui ne le font pas, ils interpellent par leur comportement, par des symptômes qui montrent leur souffrance. Mais on ne les entend pas. Pourquoi on n'en parle pas ? Parce que les politiques publiques ne s'en saisissent pas suffisamment. Le problème en France, c'est que trop peu de professionnels sont formés à détecter ces violences. D'ailleurs, quand vous avez des professionnels de l'éducation qui vous disent « Mais je me doutais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Mais comment je pouvais savoir ?» 6,7 millions de Français et de Françaises qui déclarent avoir été victimes d'inceste. C'est extrêmement massif. Eh bien aujourd'hui, si on forme les professionnels en charge de l'accueil des enfants, on peut sauver des milliers de vies.
Des propos recueillis par Sarah Ders. Cela fait des mois que Veolia cherche à racheter Suez pour créer un géant de l'eau et de l'environnement en France. Et bien pour éviter cette fusion, Suez annonce une autre solution. L'entreprise dit avoir obtenu une offre de la part des fonds français Ardian et américain Jeep. Solution amicale rejetée dans la foulée hier par Veolia. Le feuilleton pourrait donc continuer. Une femme à la tête de la Bourse de Paris, nous l'apprenons ce matin, Delphine Amarzit de chez Orange Bank, deviendra en mars prochain la première femme à piloter la place parisienne. Lui a créé une entreprise entrée en bourse en 2005 et qui a révolutionné les rencontres amoureuses. Marc Simoncini, créateur de Mythic, interrogé aujourd'hui lundi pour Demain l'écho par Annabelle Grelier, car l'économie de demain, pour lui maintenant, ce sont les transports propres et intelligents. Il a donc créé un vélo électrique, Angèle, produit près de Dijon. Présentation.
On a commencé à phosphorer sur un vélo électrique, ça existait bien avant nous, et on a regardé pourquoi les gens n'étaient pas tous sur des vélos électriques. Et là, il y a eu deux réponses, trois. La première, c'est que les infrastructures n'étaient pas là, mais ça, c'était pas dans nos mains. La deuxième, c'est qu'il y avait un frein énorme à l'achat, qui était le vol et la sécurité. Donc on s'est dit, pour que les gens basculent d'un usage intensif de la voiture à un usage vélo, il faut qu'on invente un outil qui fasse que le vélo est involable et très sûr. Et pour ça, il faut lui mettre beaucoup d'électronique et beaucoup de logiciels. Et donc, on est parti sur cette idée de développer un smart bike qui ensuite nous a demandé 2 ans de travail. Et quand on parle d'Angel, on parle d'un vélo, mais on va au-delà de ça. Nous, on essaye de porter une petite mission qui est de sortir la voiture thermique individuelle des centres-villes. Notre rêve, c'est qu'il n'y ait plus de voiture à moteur à essence individuelle dans Paris et dans les grandes villes d'Europe.
Demain, l'écho, c'est notre chronique sur la transition économique. Elle sera déclinée dans nos journaux ce lundi et elle est en une de franceculture.fr. Terminons maintenant ce journal avec la mort de Phil Spector, immense producteur de musique, aussi brillant que fou et dangereux. Il purgeait une peine de prison pour le meurtre d'une actrice en 2003, mort hier donc derrière les barreaux. Et certains se souviennent aussi de la qualité des tubes que Phil Spector a produits. Explication en musique évidemment avec Maxime Tellier.
Il est l'un de ceux qui ont inventé le son des années 60, cette démultiplication des instruments qu'on a appelé le Wall of Sound et qu'il a mis en œuvre sur des hits comme Dadu Run Run et Uptown des Crystals ou encore Be My Baby des Ronettes. Be my baby. Christiane Fanen est journaliste musicale pour le site Les Jours.
C'est des morceaux qui sont très up-tempo, comme on dit, qui partent très rapidement avec ce qu'on appelle aujourd'hui des hooks, c'est-à-dire des accroches mélodiques dans le refrain qui arrive très vite. Phil Spector, c'est le délire sonore, c'est presque de la pop symphonique, c'est-à-dire qu'il rajoute toujours des cordes, des batteries, c'est très puissant, c'est un son qui surgit et qui attrape immédiatement l'oreille.
Phil Spector était un producteur avec des idées, il savait faire des tubes, les refrains, les voix, il a fait du studio un instrument à part entière. Unchained Melody des Righteous Brothers, c'est encore lui.
On avait l'impression que la musique surgissait des sillons. Sa technique du wall of sound démultipliait la puissance et l'épaisseur du son, en fait. C'est un empilement de son, un empilement d'épaisseur sonore qui crée une vraie puissance.
Mais la carrière de Phil Spector ne dure réellement que dans les années 60, même si par la suite, il produit des albums de John Lennon ou George Harrison. Mais son génie allait de pair avec sa tyrannie. Il a fait et défait des carrières. Il épuisait ses artistes, les enfermait en studio, venait armé aussi. Il a d'ailleurs fini sa vie en prison.
Maxime Tellier pour France Culture. Le temps, Guillaume, de ce lundi qui débute en France métropolitaine, ça s'améliore sur le sud et sur l'est avant l'arrivée de pluie par la Manche. Comptez 1 à 8 degrés du nord au sud.
Merci beaucoup, Clara Lecoq-Réal. Dans quelques instants, un billet politique avec Frédéric Seize. Et puis on parlera également politique avec nos deux invités, deux politologues, Martial Foucault et Chloé Morin. Et puis dans une demi-heure, eh bien, vous retrouverez nos camarades habituels, Hervé Gardette, mais aussi Géraldine Mosna-Savoie et enfin Arnaud Laporte. Il est 8h17 sur France Culture.